Plus de 700 jeunes attendus à Ténée. Le rassemblement n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier. Il a pour thème « L'espérance ne déçoit pas ». Le calme semble revenu à tout haut, mais la tension reste palpable après un week-end marqué par des affrontements entre tribus. L'ouverture dans quelques heures du sommet des Nations Unies sur l'océan, Nice a été placée sous haute surveillance pour accueillir les délégations du monde entier. Le sport avec du tennis et une finale acharnée à Roland-Garros. Après plus de 5 heures de jeu et 5 sets, Carlos Alcaraz remporte son deuxième titre consécutif. Il a battu Yannick Sinner. En football, la France prend la troisième place de la Ligue des Nations après sa victoire sur l'Allemagne ce matin. C'est le Portugal qui a décroché le titre. Et puis Axel Raymond, champion de France de force athlétique. Le Calédonien s'impose dans la catégorie des moins de 93 kilos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'espérance ne déçoit pas. Cette phrase de l'Épître aux Romains est le thème du grand rassemblement de Ténée. Plus de 700 jeunes sont attendus à partir d'aujourd'hui sur l'hippodrome de Bourail pour ce grand rendez-vous des jeunes catholiques. Le pèlerinage n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier en raison de la situation insurrectionnelle. Mais cette année, le comité Marche pour Notre-Dame s'est remobilisé pour accueillir les jeunes toute la semaine avant le grand pèlerinage du week-end prochain. Ce matin, les jeunes de l'église du Bon Pasteur de la Vallée du Tir étaient réunis dans la cour de leur église avant leur départ vers Ténée. L'ETIVEA est l'une des responsables de la paroisse du Bon Pasteur.
On a déjà préparé nos jeunes avec un week-end de recollection que nous avons fait à la Conception afin de les mettre dans le bain du thème de cette année qui est « L'espérance ne déçoit pas ». Et du coup, voilà, la préparation spirituelle s'est faite ainsi. On a eu un enseignement déjà par notre diacre Gabi. Ce qu'on attend, c'est les gens vont d'une part pour se ressourcer et pour faire une mise à niveau avec Jésus. On va aussi pour renouveler notre foi et nous nourrir spirituellement.
Une quarantaine de jeunes des différents quartiers de Nouméa s'étaient réunis à l'église du Bon Pasteur. Ils avaient entre 11 et 40 ans avant leur départ vers Ténée.
Je m'appelle Tala, j'ai 20 ans et je viens de la paroisse du Bon Pasteur. Tout d'abord, c'est quelque chose que je fais chaque année et que j'ai toujours fait avec les anciens, mes parents, etc. Et je perpétue en fait cette tradition d'aller chaque année à Ténée.
Le thème cette année, qu'est-ce que c'est ?
L'espérance ne déçoit pas. C'est l'année jubilaire et c'est le Romains chapitre 5, verset 5. On l'a étudié, enfin du moins je l'ai étudié parce que je suis animateur de Carrefour. Et de ce que j'ai appris via le diacre Gabi, c'est que l'espérance en Dieu, elle est infinie. Elle n'est pas pareille que l'espoir. C'est vraiment une grosse contradiction avec ce qu'est l'espoir. L'espoir, c'est plutôt quelque chose d'humain, contrairement à l'espérance qui est elle, divine. Et j'espère en tout cas que ce Ténée va très bien se dérouler pour toutes les paroisses, pour tous les jeunes qui seront sur le site de Ténée. Et je leur souhaite un bon cheminement vers Ténée.
Je m'appelle Emma Jaja. C'est ma troisième fois que je monte à Ténée. C'est surtout le côté spirituel. Genre là, j'ai hâte de monter. C'est surtout l'enseignement du matin à la messe pendant l'Eucharistie. J'espère juste que eux, les premiers Ténées que nous, on a de notre paroisse, ils vont aimer.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou. À Ténée, une messe d'accueil sera célébrée à 17h ce soir par le père Jacques Souta. Les enseignements débuteront demain matin et se poursuivront jusqu'à vendredi. Le pèlerinage, lui, débutera samedi, comme le veut la tradition, avec un départ du lycée professionnel Père Guénaud. Les pèlerins chemineront vers le site et la grand-messe sera célébrée dimanche à 9h. Elle sera présidée par l'archevêque de Nouméa, Mgr Sioné Poé. On en vient aux faits divers et à tout haut, le calme semble revenu. Les gendarmes sont toutefois toujours mobilisés après les violences de la semaine dernière, Nicolas Legrand.
Oui, ce week-end encore, la tension était extrêmement vive entre les habitants de la tribu de Kongouma et ceux de Vieux-Tout-Haut. Samedi, 70 personnes ont tenté d'en découdre. Les gendarmes sont rapidement intervenus pour éviter un drame. Malgré tout, dans la nuit de samedi à dimanche, 3 maisons auraient été incendiées. Et je rappelle qu'en début de semaine, un jeune de 17 ans a été blessé à la tête à coups de sabre d'abattu et que 2 autres personnes avaient été blessées plus légèrement. Des coups de feu avaient également été tirés en direction d'une habitation, mais sans faire de victimes.
Et puis une information judiciaire ouverte pour meurtre à Dumbéa. 2 suspects ont été interpellés après la découverte du corps d'un homme de 90 ans dans sa maison incendiée début mai.
Oui, âgé de 22 et 24 ans, ils ont été mis en examen pour meurtre, mais aussi pour destruction par incendie et vol. Ils ont été placés en détention provisoire. Le parquet n'a communiqué aucun autre élément à ce stade, puisque les investigations se poursuivent sous l'égide du juge d'instruction. Pour rappel, le 9 mai dernier, la famille de la victime s'était inquiétée de ne pas avoir de ses nouvelles. Arrivés sur place, les gendarmes avaient constaté que la maison avait été fortement dégradée par un incendie et qu'un corps gisait à même le sol de cette habitation assez reculée. La voiture de la victime avait également été retrouvée incendiée un peu plus loin.
Et puis 2 individus seront jugés demain pour un vol en réunion au magasin Rôti de Normandie, alors qu'il était ouvert vendredi soir. Les malfaiteurs, qui étaient munis d'une barre à mine, sont partis avec la caisse. Grâce à un important dispositif de la police nationale, deux des trois personnes impliquées ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles ont été écrouées en attendant leur procès qui aura lieu demain. Enfin, au Pécassis, samedi, un magasin de proximité a également été cambriolé. Là aussi, deux personnes, un majeur et un mineur, ont été arrêtées et placées en garde à vue. Ils seront prochainement convoqués devant la justice. On parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Les responsables loyalistes qui sont sur place multiplient les rencontres pour informer sur la situation et ils en profitent pour s'exprimer dans les médias. Et le ministre des Outre-mer était hier soir pour nous l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews, Elisabeth Noir.
Un accord est toujours possible, c'est le leitmotiv de Manuel Valls. Et le ministre des Outre-mer a répété ses convictions sur le dossier calédonien en réaffirmant les priorités. C'est à ses yeux la reconstruction économique et sociale et notamment la reconstruction de la filière nickel. C'est assurer la sécurité et c'est un accord politique. Sans accord politique, il n'y a pas de stabilité, a martelé Manuel Valls, à qui les journalistes ont fait remarquer que cet accord apparaît loin après l'échec de Deva.
D'abord, le fil du dialogue n'est pas rompu au-delà des propos d'estrade, des mises en cause personnelles qui sont un grand
classique. Parler de Madame Baquès ?
Qui sont un grand classique de la vie politique en général et notamment en Nouvelle-Calédonie. Mais moi, je ne me laisse pas impressionner par cela. Le fil du dialogue n'est pas rompu et ce que je constate, c'est que tous les acteurs politiques, et évidemment économiques, mais tous les acteurs politiques pensent qu'il faut un accord. Et que cet accord est indispensable si on veut éviter le chaos. Donc, c'est pour cela que, au fond, d'une certaine manière, je considère, je l'ai dit, donc je l'assume, qu'il y a eu un échec dans le dialogue qui s'est tenu en Nouvelle-Calédonie, mais que c'est au fond qu'une étape.
Une étape vers quoi ? Lui a alors demandé le journaliste québécois Mathieu Boccoté.
Il faut trouver une voie de conciliation entre les deux aspirations.
Mais on ne peut pas être indépendant et pas indépendant d'un
point. Eh bien, entre ceux...
Vous ne savez pas vous-même.
Entre, si, je le sais clairement, puisque j'ai posé sur la table un texte, un projet de souveraineté avec la France, conciliant la pleine souveraineté, ouais, l'aspiration à la souveraineté et la volonté de rester extrêmement lié à la France. Eh bien, moi, je crois que c'est possible, que c'est la seule voie, c'est celle d'ailleurs que nous cherchons depuis 1988, depuis les accords de Matignon et d'Oudéno qui doivent tellement à Michel Rocard, et ceux de 1998 qui doivent tellement à Lionel Jospin. Et avec, en 88, deux hommes qui étaient vraiment irréconciliables, sur le fond, Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou, qui, ce ouais, dernier, l'a payé un an plus tard de sa vie, mais qui ont considéré que c'était possible. Donc, il faut y aller avec quelques principes simples.
Appelons ça une forme de souveraineté-association ?
Je n'ai pas utilisé ces mots parce qu'en plus, tous ces mots, je parle au québécois, tous ces mots en Nouvelle-Calédonie...
En histoire ailleurs.
Tous ces mots sont d'une certaine manière un peu piégés.
Les mots sont piégés, déclare Manuel Valls, qui n'a jamais qualifié sa proposition. Interrogé sur la reprise en main du dossier par Emmanuel Macron, le ministre des Outre-mer a répété qu'il avait la responsabilité du dossier et qu'il aurait besoin du président de la République s'il y avait un accord et la nécessité de modifier la Constitution. Je crois que nous sommes d'accord sur l'objectif, affirme encore Manuel Valls, qui avait déjà eu l'occasion de déclarer que le président de la République, le Premier ministre et lui-même étaient tous alignés sur l'idée qu'il faut un accord politique. Une interview que vous retrouverez ce soir en intégralité avec la diffusion ce soir sur RRB, comme tous les lundis, du grand rendez-vous d'Europe 1.
Manuel Valls, vous l'avez entendu, dénonce donc les propos d'estrade et les mises en cause personnelles. Il faut dire qu'il n'a pas été ménagé par Sonia Baquès et par Nicolas Metzdorf, qui ont tous les deux été les invités de CNews ce week-end.
Sonia Baquès était vendredi soir sur CNews et elle a été interrogée sur ses inquiétudes concernant l'avenir. On lui a demandé si elle suspectait Manuel Valls de vouloir donner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie.
Je ne suspecte pas, puisque Manuel Valls n'est pas le gouvernement. Manuel Valls a proposé la, je cite, « complétude de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie » avec un transfert de toutes les compétences régaliennes, une nationalité calédonienne, un statut international de pleine responsabilité. Donc l'indépendance, malgré trois votes des Calédoniens contre l'indépendance, mais considérant que comme un certain nombre, une minorité a tout cassé, eh bien il faut lâcher à cette minorité l'indépendance. Donc il est... heureusement, à ce stade, très isolé dans cette proposition. Mais on s'interroge de comment le numéro 3 du gouvernement peut arriver en Nouvelle-Calédonie et proposer ça.
C'est-à-dire que vous suspectez qu'il ait ce mandat, cette véritable mission, ce mandat du président de la République ?
Non, nous savons aujourd'hui qu'il n'a pas ce mandat d'accord, du président de la République. Le président de la République n'avait pas connaissance de ce projet. Il a d'ailleurs invité toutes les forces calédoniennes pour, je cite, « clarifier la situation ». Un certain nombre de membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur a envoyé François-Xavier Bellamy, le numéro 2 des Républicains, en Nouvelle-Calédonie pour affirmer que si Manuel Valls s'entêtait dans son projet, ça pourrait remettre en cause leur participation au gouvernement. Donc il n'est pas suivi. Mais ça n'empêche qu'il est arrivé en proposant rien de moins que d'abandonner une partie du territoire national sans aucun mandat et en positionnant la négociation avec les indépendantistes dans une situation impossible, puisqu'on leur offre l'indépendance. Comment voulez-vous qu'ils fassent marche arrière ?
Et la chef de file des loyalistes a aussi été interrogée sur la perspective d'un quatrième référendum.
C'est surprenant qu'on puisse imaginer ça. C'est-à-dire, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que les Calédoniens, on respecte tout simplement leur vote? Ils ont voté trois fois, en plus, dans des conditions extrêmement défavorables au camp de la France, puisque les Kanaks pouvaient être inscrits automatiquement sur les listes et pas les autres, puisqu'il fallait arriver avant 94 pour pouvoir voter aux trois référendums. Les conditions étaient très défavorables, et malgré ça, on a gagné trois fois. Et on nous dit, non, mais comme c'était pas comme ça que c'était prévu, on va vous en faire un quatrième. Enfin, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut que la Calédonie se reconstruisent et il faut arrêter de diviser les populations, parce que les référendums, finalement, ils ne font à chaque fois qu'opposer les populations avec des enjeux identitaires forts.
Sonia Backès qui déclare qu'avec sa proposition, Manuel Valls a mis en place les conditions pour que la situation se tende à nouveau sur le terrain. Elle a aussi été interrogée sur les ingérences extérieures et notamment celle de l'Azerbaïdjan. De son côté, Nicolas Metzdorf était hier soir l'invité de Face à l'Info, toujours sur CNews, pour faire le point un an après le début des violences insurrectionnelles. Il lui a été demandé si aujourd'hui, tout le monde s'en fout de la Nouvelle-Calédonie.
Tout le monde s'en fout, non, mais en tout cas, ceux qui s'y intéressent ont des mauvaises idées, puisqu'on a eu récemment les visites de M. Valls et de Marine Le Pen. Et en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, ce qu'on ressent, nous, de l'État, de Paris, c'est un largage, c'est un abandon, malgré le fait qu'on ait choisi de rester français trois fois en 2018, 2020 et 2021. Donc aujourd'hui, indépendantistes et non-indépendantistes sont en négociation, mais il manque en fait la parole de la France, il manque la parole de l'État. Il y a un moment donné, que veut la France pour ses outre-mer ? La France est une grande puissance planétaire pour deux raisons principales. Un, c'est une puissance nucléaire. Deux, elle est présente sur l'ensemble des fuseaux horaires du globe. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est un territoire qui a choisi la France. Et Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, est venu nous dire qu'il fallait peut-être choisir la voie de l'indépendance associée. Donc à un moment donné, on voit que la Chine cherche à récupérer Taïwan, on voit que la Russie cherche à envahir l'Ukraine, on voit que les États-Unis landent sur le Groenland, et la France, elle qui a des territoires qui la choisissent, finalement recule.
Le député de la première circonscription interrogeait également sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie.
Bruno Retailleau fait un bon travail, pour le coup, en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il maintient une vingtaine d'escadrons de gendarmes mobiles, lorsqu'il n'y en avait eu que cinq, lorsque les émeutes ont éclaté, parce que toutes les forces de l'ordre étaient mobilisées pour les Jeux Olympiques à Paris. Aujourd'hui, Bruno Retailleau fait vraiment un effort particulier, et c'est à souligner, et je le remercie, pour que l'aspect sécuritaire demeure en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, le problème, il est fondamentalement politique. Les indépendantistes n'arrêteront pas d'être indépendantistes. Nous, on défend forcément l'attachement de la Calédonie à la France. Et le sentiment qu'on a eu avec la visite du ministre des Outre-mer, c'est que vraiment, aujourd'hui, la violence avait gagné. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu de la violence, parce qu'on ne sait pas finalement rétablir l'autorité de la France et puis redonner des perspectives et de l'ambition à ce territoire, finalement on se dit bon, c'est un territoire qui est loin, ça nous coûte cher, on ne s'y intéresse pas trop, on n'a qu'à le lâcher.
Et comme député Renaissance, Nicolas Metzdorf a été invité à commenter les dernières déclarations du président de la République. Il a déclaré qu'on ne pouvait pas se désintéresser de la sécurité des Français, mais qu'Emmanuel Macron est celui qui a fait le plus pour que la Calédonie reste française.
Avant de marquer une pause dans ce journal, cette dernière information qui concerne un nouveau caillassage qui s'est produit sur la route de Saint-Louis ce matin aux alentours de 7h. Un automobiliste qui roulait vers Ploum a aperçu un piéton sur le bord de la route qui lui a lancé un projectile, un marteau semble-t-il, sur le pare-brise qui a explosé. Le conducteur n'est pas blessé mais une enquête est en cours et un suspect a été interpellé. Il est midi 14, on se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde et notamment la préparation à Nice de la conférence des Nations Unies sur l'océan.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ici, on commence vraiment à sentir la fraîcheur du matin et du soir, pas vous ? Alors si, comme ma famille, vous avez besoin de vêtements chauds à petit prix, Gémeaux propose jusqu'au 22 juin la suite de sa collection hiver avec encore plus de nouveautés, sans oublier les idées cadeaux pour la fête des pères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Dimanche 15 juin, c'est la fête des pères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Rouf au 25 07 00. Retrouvez la mini carte spéciale fête des pères sur la page Facebook Le Rouf.
Jusqu'au 15 juin, célébrons la fête des pères comme il se doit et craquez pour le barbecue Titan à 49 990 francs seulement. Produits d'aménagement, barbecue, piscine ou encore végétaux, vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal pour lui faire plaisir. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La ville de Nice, sous haute surveillance, elle s'apprête à accueillir l'UNOC, la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. De très nombreuses délégations sont arrivées ou sont attendues dans les prochaines heures sur la Côte d'Azur. Parmi les personnalités attendues, le président brésilien Lula ou encore son homologue argentin Milei. Évidemment, la ville de Nice a été placée sous haute sécurité. Frédéric Michel pour Europe 1.
Sur terre, en mer, dans les airs, c'est un dispositif XXL qui a été déployé. Laurent Occhio, le préfet des Alpes-Maritimes.
C'est effectivement un dispositif très robuste de sécurité que nous avons mis en place. On a ici plus de 5000 policiers, gendarmes et les renforts de militaires, de sentinelles et les sapeurs-pompiers qui nous permet, avec la police municipale, d'avoir un dispositif très conséquent.
Dans les transports en commun, mais aussi sur la route, les contrôles vont être nombreux durant toute la durée de la conférence sur les océans. Frédéric Pizzini est le directeur départemental de la sécurité publique dans les Alpes-Maritimes.
Ça permet de détecter d'éventuels malfaisants, faire en sorte qu'il n'y ait pas de menaces extérieures qui viennent perturber l'événement. Et puis, ça participe à la sécurisation de la ville.
Des brouilleurs de téléphones, mais aussi de drones ont été installés et de nombreuses unités d'élite du pays sont mobilisées. Nice, Frédéric Michel, Europe 1.
Emmanuel Macron est donc à Nice pour accueillir ses hôtes après avoir fait une étape à Monaco, où il a participé à un forum sur l'économie et la finance bleue.
Il n'y a aucune fatalité, mais il est essentiel de mobiliser les secteurs financiers et économiques du monde entier. Il y a la possibilité d'avoir une pêche durable. Il y a la possibilité d'avoir un transport maritime durable. Il y a la possibilité d'avoir un tourisme durable. Il y a la possibilité d'avoir un modèle économique pour notre planète et nos océans qui soit soutenable. C'est une question de choix, de responsabilité et de mobilisation collective.
Et avant ce déplacement à Monaco, le chef de l'État a accordé une interview à la presse quotidienne dans laquelle il souhaite que ni le gouvernement ni le Parlement ne cèdent aux facilités du moment. Après la suppression des ZFE et la suspension de la prime de rénovation, ce n'est pas le moment de créer des incertitudes sur les dispositifs mis en place, a déclaré Emmanuel Macron, qui ajoute qu'il n'a de leçons à recevoir de personne sur l'écologie. C'était jour de vote en Italie pour un référendum sur la naturalisation et le droit du travail. Ce sont des propositions de l'opposition qui ont recueilli 500 000 signatures. Mais pour valider le résultat de ce référendum, il faut qu'au moins la moitié des électeurs inscrits glissent un bulletin dans l'urne. Le gouvernement Meloni, opposé aux propositions soumises au vote, appelle au boycott, même si la présidente du Conseil italien se déplacera bien dans un bureau de vote. Mais elle ne votera pas.
Je suis la présidente du Conseil des ministres. Je pense qu'il est juste de témoigner du respect envers les urnes, de témoigner du respect envers l'institut référendaire, mais je continue de considérer que la loi sur la citoyenneté en Italie est une excellente loi.
Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Il y a un an, le 9 juin 2024, Emmanuel Macron annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national est devenu le premier groupe représenté au Palais Bourbon et son chef de file, Marine Le Pen, s'en prend vivement au chef de l'État et au gouvernement dans un entretien au journal du dimanche. Elle fustige notamment l'inaction, selon elle, des ministres de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et celui de la Justice, Gérald Darmanin. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Marine Le Pen alerte sur une France fragilisée. Insécurité, violence, immigration, elle dénonce l'impuissance de Gérald Darmanin, critique le manque de fermeté de Bruno Retailleau et laisse entendre qu'elle pourrait censurer le gouvernement si le budget reflète la ligne Bayrou, jugée injuste envers les classes moyennes. La tension est encore montée d'un cran aujourd'hui après une sortie d'Emmanuel Macron dans la presse régionale, accusant certains de brainwasher, autrement dit de laver le cerveau sur l'invasion du pays. Réponse immédiate de Marine Le Pen sur les réseaux sociaux, fustigeant le détachement indécent d'un président enfermé dans le déni, l'aveuglement et le mépris. Un message qui trouve un écho. Selon un sondage Elabe, le RN domine largement les intentions de vote avec plus de 32%, loin devant le nouveau Front Populaire et Ensemble. Un an après la dissolution, 71% des Français la jugent injustifiée et le RN est perçu comme le grand gagnant de la séquence par 42% des sondés.
L'actualité en métropole, c'est aussi la fin bientôt du conclave sur les retraites. Les propositions s'enchaînent. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a jeté un pavé dans la mare. Face à la menace d'un déficit croissant, il préconise le report progressif de l'âge de départ à la retraite à 66 ans et demi d'ici 2070, ce qui provoque bien sûr une vive réaction des syndicats. De son côté, Édouard Philippe propose lui d'introduire une dose de capitalisation dans le système de retraite, ce qui ne semble pas convaincre le ministre de l'économie, Éric Lombard.
Le problème de la capitalisation, c'est que dans l'organisation actuelle, c'est inégalitaire, c'est que c'est ceux qui ont de l'argent, donc ceux qui ont les revenus les plus élevés qui peuvent le placer. Et si on devait faire une capitalisation obligatoire, qui le financerait? Les entreprises, on voit bien que les marges sont serrées et il n'y a pas de quoi prélever. Donc ça demanderait une réflexion plus large sur l'organisation. En faire un élément obligatoire, je suis pas sûr que ce soit le bon moment. On a des priorités plus brûlantes sur la question des retraites.
Rappelons que le conclave des retraites se réunit chaque jeudi, mais Force ouvrière a claqué la porte dès le début des réunions, suivi un peu plus tard par l'UDP, puis par la CGT. La CFTC, elle, a zappé deux réunions parce que le sujet ne lui plaisait pas. En réalité, il n'y a plus que la CFDT, le MEDEF et la CPME qui discutent. Il est midi 21, une nouvelle pause dans ce journal et dans un instant, c'est toute l'actualité sportive et elle est riche évidemment en cette fin de week-end.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le jeudi du centre-ville aux couleurs de Wallis et Futuna est de retour ce jeudi 12 juin sur la place des Cocotiers. Cette année, les associations mettront à l'honneur le patrimoine et la culture de l'archipel. Retrouvez plus de 70 exposants qui vous feront découvrir leurs spécialités culinaires et l'artisanat traditionnel. Danse, chant, dégustation de plats typiques feront également partie du programme. Rendez-vous jeudi 12 juin de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement. Parce qu'en matière de peinture, le choix et le service, c'est important. Bienvenue chez NBO Colors.
Plus de 500 mètres carrés de peinture professionnelle et accessoires. Des produits professionnels toujours disponibles. Un grand parking, une équipe d'experts peinture, des couleurs à la demande avec un choix illimité de teintes et un magasin ouvert en continu.
Alors à bientôt chez NBO Colors. L'univers de la peinture pour professionnels et particuliers. 4 rue Fulton à Ducosse, 43 43 00.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer avec le tennis, évidemment, et Carlos Alcaraz, qui a conservé son titre à Roland-Garros, Mikael Gioneski.
Un deuxième sacre d'affilée pour l'Espagnol, au terme d'un match d'anthologie contre le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Alcaraz a d'abord été mené au score de 7-1 et a réussi à sauver 3 balles de match avant de renverser la partie pour s'imposer au terme de 5-7, 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. 5h29 d'un duel au sommet, une remontada magistrale pour Carlos Alcaraz qui remporte à 22 ans son 5e titre en Grand Chelem. Il a tenu à remercier le public français après cette victoire.
Then Paris, guys, you have been a really important support.
Merci au public. Dès mes premiers entraînements, vous m'avez soutenu.
For the great support and the whole week for today's match was you were really really important. You are in my heart.
Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour le soutien aujourd'hui.
Carlos Alcaraz qui reste le roi de la terre battue parisienne chez les dames. On rappellera que c'est l'américaine Coco Gauff qui est parvenue à s'imposer en finale après avoir battu la Bélarusse Arina Sabalenka en 3-7, 7-6, 6-2, 6-4.
Le football, c'est le Portugal qui remporte cette année la Ligue des Nations et la France termine troisième.
Les Portugais de Cristiano Ronaldo qui l'emportent en finale face à l'Espagne tenante du titre aux tirs au but. 5 tirs réussis à 3. La Roja menait pourtant 2-1 à la mi-temps, mais la star du Portugal, Cristiano Ronaldo, a réussi à égaliser à l'heure de jeu pour offrir à sa sélection les prolongations et enfin cette séance fatidique des tirs au but où l'erreur d'Alvaro Morata a laissé le Portugal vainqueur. Et puis, dans la petite finale, ce sont les Bleus qui ont remporté la victoire face à l'Allemagne. Succès 2-0 avec Kylian Mbappé qui s'est illustré par un but à la 46e minute de jeu, puis une passe décisive à Michael Olise, le capitaine de l'équipe de France, heureux de marquer à nouveau sous le maillot bleu.
J'ai toujours voulu être impactant en équipe de France. J'ai toujours dit qu'il n'y avait rien au-dessus. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de recommencer à être décisif, ce qui normalement doit être ma norme. Ça fait plaisir. Maintenant, c'est pas une finalité parce qu'au final, le plus important, c'est de gagner. Aujourd'hui, on a gagné, c'est bien. Mais contre l'Espagne, c'est pas la chose que j'ai retenue d'avoir marqué et d'avoir fait marquer. C'est plus la prestation collective qui est de gagner.
Et l'équipe de France qui se contente donc du bronze pour terminer cette Ligue des Nations 2025 après avoir perdu face à l'Espagne en demi-finale 5-4.
On ouvre une page au sport mécanique et on commence par le rallye avec la victoire de Sébastien Ogier en Sardaigne.
Le pilote français sur Toyota a remporté une nouvelle étape du championnat du monde devant l'Estonien Ott Tänak sur Hyundai. C'est la 64e victoire en carrière en WRC pour Ogier, la 5e en Sardaigne. Le français sur un programme, on le rappelle, partiel cette saison et après son succès déjà au rallye précédent au Portugal, prend la deuxième place du championnat du monde derrière le gallois Elfyn Evans. Ogier qui compte 3 victoires cette saison sur les 6 manches du championnat déjà disputées.
Et puis en MotoGP, Marc Marquez a confirmé sa domination lors du Grand Prix d'Aragon.
L'Espagnol qui s'impose devant son frère Alex Marquez. Ils sont toujours aux 2 premières places du classement du championnat du monde dans le même ordre. On retiendra surtout les désillusions des pilotes français, 2 chutes et 2 abandons. Fabio Quartararo notamment, qui savait que ce serait un week-end à oublier.
Je m'attendais à rien de ce Grand Prix, mais je m'attendais pas à avoir ce genre de problème. Et je pense que c'est assez délicat et bizarre de sentir un petit peu ce qu'on a eu durant cette course. Donc c'est très compliqué de partir sur un feeling qui a été aussi mauvais.
Et Johan Zarco aussi est parti à la faute et a dû abandonner. Le tricolore qui perd une place au championnat du monde. Il se retrouve 6e du classement. Le prochain Grand Prix, ce sera en Italie dans 2 semaines.
Et puis du cyclisme avec la première étape du critérium du Dauphiné libéré. Victoire de Tadej Pogacar.
Le Slovène s'est imposé sur le fil devant le peloton et dans un groupe de favoris d'abord emmené par le Danois Jonas Vingegaard à 5 km de l'arrivée. Si cette première journée était plutôt promise aux sprinteurs, elle a finalement donné lieu à une première explication entre les favoris. Le meilleur français, c'est Hugo Page. Il a terminé à la 7e place, à 10 secondes du vainqueur du jour. Ce soir, la deuxième étape, longue de 204 km, sera à suivre à partir de 21h20.
Actualité sportive côté calédonien et en force athlétique, Axel Raymond a décroché le titre de champion de France.
Sa première distinction nationale dans la discipline. Après avoir remporté l'année dernière le titre de vice-champion du monde Masters, il s'est imposé dans la catégorie des moins de 93 kilos en terminant au passage 2e du classement toutes catégories confondues. Une confirmation pour celui qui avait à cœur de prouver que sa médaille mondiale n'était pas due au hasard alors qu'il n'avait pas pu participer aux dernières échéances françaises et européennes. Axel Raymond qui nous a fait part de sa réaction.
Ça y est, enfin, le titre de champion de France revient en Nouvelle-Calédonie. Après toutes ces années que j'ai attendues, c'est vraiment un gros plaisir d'avoir fait cette médaille, d'avoir lutté et surtout de ramener aussi le titre de vice-champion de France, toutes catégories confondues. C'était une grosse journée, une grosse compétition avec des athlètes au niveau mondial. Ça y est, enfin, j'ai décroché ma place pour les championnats du monde et je l'espère aussi pour les championnats d'Europe. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le retour de la Fédération française pour les qualifications. Mais normalement, ça y est, on l'a fait et la Calédonie sera représentée encore une fois au championnat du monde en Afrique du Sud.
Axel Raymond s'affirme comme l'un des grands acteurs de la force athlétique au niveau national, alors que l'ancien champion de taekwondo a mené cette aventure sans sponsor et sans coach pour pouvoir l'accompagner en métropole. Un périple avec les moyens du bord pour se hisser au sommet.
Ce déplacement a été financé par moi-même. C'est vrai que avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à trouver de partenaire pour pouvoir effectuer les championnats comme celui d'Australie que j'ai fait en début d'année. Et là, les championnats de France, je les fais aussi sous fonds propres. C'est pas facile, mais on n'a pas le choix si on veut ramener et faire briller le pays à l'extérieur. Et maintenant, ça va être la lutte parce que les championnats du monde vont approcher en octobre. C'est vrai que là, sans financement, je pense que je pourrais pas y participer. Mais j'ai encore espoir de trouver des partenaires qui m'aideront à avancer, à y aller et à encore faire briller notre pays. Donc on croise les doigts et puis pourquoi pas, on espère encore trouver des finances et des partenaires pour nous aider.
Voilà pour la réaction d'Axel Raymond. Une performance remarquable pour celui qui avait pu participer au dernier Mondiaux Masters grâce à un repêchage. Les émeutes avaient compromis le planning des pratiquants calédoniens. Cette fois, Axel Raymond devrait passer par la grande porte pour rejoindre l'équipe de France lors des prochaines échéances internationales.
Un mot de sport encore pour vous signaler que la Fédération calédonienne de football organise actuellement un stage d'arbitrage. 2 formateurs de la FIFA sont présents, l'un venu de l'île Maurice, l'autre de Tahiti. Cette formation est destinée à améliorer le niveau des arbitres élites avec des modules théoriques et pratiques mis en place jusqu'au 11 juin.